Retrouvez Radio Foot International avec Canal+, pour être au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021 et de tous ses matchs.
Mesdames et messieurs, je vous annonce la présence de Radio Foot International RFI. Ali Garcia est là, son passage du bruit pour un souverain.
Radio Foot International.
Ramenez cette coupe à la maison.
Ali Gasnier.
Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous et bienvenue au pays de la CAN. Nous voilà donc à Yaoundé, capitale du pays des Lions Indomptables, ville de leurs premiers exploits aussi. Yaoundé, la ville aux sept collines, mais des collines des tropiques, hein, pas d'autre point commun avec la belle ville de Rome. La capitale compte 4 millions d'habitants et presque autant de supporters des Lions qui portent fièrement leur maillot national. En tout cas, c'est l'impression que ça nous a donné depuis que nous sommes arrivés. Cette nation, eh bien, nous en parlerons. Elle est sous le charme de ces lions invaincus qui marquent des buts, qui sèment la joie. Et les voilà en huitième de finale, premier de leur groupe. Jusqu'où iront ces lions? Les étalons, en tout cas, les suivent de près dans ce groupe.
En ce moment, il est difficile de croire en nous. En tous les cas, moi, je crois en mes joueurs. Je crois en nous. Et jusqu'au bout, on n'abandonnera pas.
Les champions d'Afrique vacillent, ils ne renoncent pas, vous avez entendu Jamel Belmadi, mais les Fenech d'Algérie ont perdu hier leur invincibilité et peut-être leurs illusions. Est-ce la chute de la maison Belmadi ou un incident de parcours? En tout cas, c'est un vrai exploit de la Guinée équatoriale. Le Sili national veut la première place, une sélection de Guinée sérieuse, guidée par de nouveaux dirigeants, dont Séga Diallo, vice-président du comité de normalisation et de la fédération. Tout le monde vous appelle président. Bonsoir président Séga Diallo.
Bonsoir Annie et bonsoir à toute l'équipe.
Merci beaucoup d'être là aujourd'hui en tant donc dirigeant de ce Sili national. Et puis nous évoquerons aussi des panthères sans star. Aubameyang et Lemina rentrent dans leur club sans jouer une minute. Le Gabon amoindri ou pas? Eh bien, c'est une question notamment qu'on posera à notre confrère qui est gabonais du site Le Sportif. Bonsoir Roderick Bekele.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Tout va bien?
Très bien.
Ouais, vous avez le sourire à la veille du match, tout va bien. Nous sommes aussi avec notre ami ici, correspondant Jean-Bruno Tagne. Bonjour Jean-Bruno.
Bonjour Annie, bonsoir à tous et bienvenue à Yaoundé.
Notre confrère de Naja TV, hein, notamment. Absolument. Notamment. Oui. Mais il a bien d'autres fonctions et vous avez déjà dû en entendre parler. C'est l'ami de l'ami du roi d'ici. Et puis Christophe Jousset, là. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Annie.
Revenu en courant du stade pour être dans l'émission, n'est-ce pas?
Oui, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde sur la route du retour.
Alors derrière moi, ou plutôt derrière le micro et derrière les caméras ce soir, puisque vous pouvez nous suivre en Facebook Live, eh bien il y a David Finzel, évidemment le fidèle, et Laurent Salerno, notre maestro, mais aussi Cyril Etienne, Léo Dubois, Benjamin Avayou et Denis Chastel, le patron de ce studio. Radio Foot, c'est parti.
Radio Foot, à Yaoundé, et la CAN, c'est parti. Encore lui, Vincent Aboubakar pour le cinquième but dans le tournoi. L'égalisation signée Gary Rodriguez sur ce ballon bien joué sur le côté droit par Montero pour le Cap-Vert. Terminé sur ce match nul, un but partout entre le Cameroun et le Cap-Vert.
Et Christophe Jousset a encore de la voix. Mmh. Et surtout, Vincent Aboubakar a donc ouvert le score dans ce match. Mais le Cameroun a été rattrapé par le Cap-Vert. Donc, premier match nul des Lions. Mais ils sont les premiers du groupe. Ils sont qualifiés. Et les supporters réunis à la fan zone du Palais des Sports où nous sommes allés étaient ravis.
Je pense que depuis la première sortie des Lions, ils ont montré qu'ils avaient, n'est-ce pas, la capacité pour arriver jusqu'au bout. On dit toujours impossible n'est pas Camerounais. Même si vous prenez les enfants qui n'ont pas de club et vous leur donnez la tunique du vert ou jaune, ils vont se transcender. Même si on a des mauvais joueurs, quand on a le vert ou jaune, on devient, n'est-ce pas, des super joueurs. Ça, c'est la force du Cameroun.
Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe du Cameroun, là?
Non, on pensait qu'on va qualifier, justement, mais on est qualifié, on va remporter ça. Ça ne sort pas ici. On est fiers, on a organisé, on est chez nous. Puis on va prendre ça au Limbe, on ramène ça au palais. Je suis la fan de RFI, éditeur de RFI, toujours. Je vous remercie, madame, 100%.
Je suis d'abord là, ayant dit que je suis camerounaise et je suis fière de l'être. Je suis revêtue en vert rouge jaune et nous savons que nous allons arriver plus haut. Nous allons remporter encore et encore et encore cette coupe.
Christophe Jousset, cette équipe du Cameroun, elle est qualifiée, elle est première de son groupe et surtout, on a l'impression, elle sème des buts et elle sème la joie.
Oui, alors la joie, on l'a bien bien entendu ce soir parce que le stade était quasiment plein. La jauge, si on calcule bien, c'est 48 000. La jauge maximum, je pense qu'on a un peu dépassé. Il y a eu un moment...
Pour penser les autres jours.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on avait plus les yeux sur les coursives du stade parce qu'on voyait les gens qui étaient en train d'affluer. Peut-être que quelques portes ont été ouvertes. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi cette mesure qui favorisait, pour favoriser le remplissage des stades avec la fermeture des écoles et des administrations au début d'après-midi, et ben ça a marché, voilà, et ça fait du bien. Et en plus, on a vu, on a eu l'expérience, on l'avait vu aussi au match d'ouverture, mais de ce stade où l'ambiance reste vraiment prisonnière avec ce semi-toit, j'ai envie de dire, qui fait un effet vraiment l'ovale, le bruit tourne dans, l'ambiance tourne dans cette ovale et c'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y a le sélectionneur du Cap-Vert qui disait en conférence de presse après le match qu'il avait du mal à communiquer avec ses joueurs à cause de cette ambiance.
Jean-Bruno Tagne, vous êtes donc un supporter des Lions, bien sûr, de ces Lions indomptables, indomptés encore sur leur propre territoire, hein, puisque ça fait des années qu'ils accumulent les matchs sans perdre ici au Cameroun. Comment vous, est-ce que vous êtes surpris par, on voit un engouement dans les rues et tout ça, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils répondent sur le terrain à cet engouement qui était prêt à s'enflammer.
Oui, effectivement, parce que les Camerounais ont toujours été très, très proche de leur équipe et les joueurs le leur rendent bien pour l'instant. C'est vrai que les deux buts ont été un peu poussifs. On a eu très peur lors du premier match contre le Burkina Faso. Mmh. Voilà, ce n'était pas facile. Les Lions indomptables ont réussi à gagner, mais le jeu, ce n'était pas vraiment cela. Et au deuxième match, on a vu des Lions se reprendre. Il y a eu beaucoup de buts et également de la qualité. Donc, dernier match, c'est vrai, on fait un but partout, mais les Lions indomptables tiennent bien leur rang, premier de leur groupe, qualifié pour les huitièmes de finale. Et en général, chez nous, on dit que les Lions indomptables, c'est en fonction des adversaires qu'ils ajustent leur jeu, quoi. Donc, pour l'instant, les gens ne sont pas du tout inquiets, malgré le jeu qui n'a pas été toujours excellent depuis le départ, mais les supporters sont convaincus que c'est en fonction des adversaires que les Lions vont pouvoir ajuster la qualité de leur jeu.
Rodrigue Bécalé, en plus, on a une équipe qui marque des buts, parce que c'est vrai que depuis le début de la compétition, on a parfois été un peu sur notre fin, beaucoup de 1-0, voire des 0-0. Là, c'est une équipe, elle a un peu de panache, et avec Vincent Aboubakar, qui est déjà premier et meilleur buteur, 5 buts, hein.
J'apprécie beaucoup le collectif. Mon confrère le disait, je restais un peu sceptique quant à la production du jeu de cette équipe du Cameroun. Mais quand on essaie de regarder l'évolution, la progression au fur et à mesure que les matchs se suivent, on a l'impression aujourd'hui que le Cameroun va monter en puissance. Mais il faudrait que le Cameroun fasse très attention parce que vous rencontrez le Cap-Vert tient l'échec, un but partout. Vous rencontrez la formation du Burkina Faso, le Burkina Faso ouvre la marque et puis vous venez derrière, vous courez après le score. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention parce que les matchs à élimination directe vont devenir très compliqués et très durs. Et des équipes comme par exemple le Cameroun qui a du mal les 45 premières minutes à démarrer les matchs, il faut beaucoup faire très attention. Je pense qu'Aboubakar est dans son jeu et tellement écouté, tellement suivi. Il est entouré des personnes qui veulent qu'il sorte du lot. Et c'est ce qui se passe actuellement. Surtout les ailes de cette équipe du Cameroun font en sorte que Aboubakar soit très à l'aise.
Christophe ?
Bah oui, Aboubakar a montré tout de suite qu'il était le leader. Il a tourné avec ses deux premiers pénaltys, son doublé en deuxième match. Aujourd'hui encore, il aurait pu en mettre deux. Le ballon repoussé par Vosinha sur son pied droit, c'est une énorme occasion et je pense qu'il va y repenser. Mais oui, impressionnant, c'est vraiment le leader. Alors après, il faut que tout se mette en place à côté de lui parce qu'il y a quand même pas mal de choses à redire et André Onana ne s'en est pas caché. Il a l'habitude des analyses lucides et il a dit que défensivement, il y a eu beaucoup d'erreurs et que pour l'instant, cette équipe, elle commet trop d'erreurs.
Seka Diallo, vous avez un regard évidemment extérieur, mais pour ce qui est de cette équipe, ou peut-être des équipes en général, il y a une montée en puissance, on dit aussi, et le premier match évidemment déjà ne ressemble pas au troisième, et ensuite ça va être des matchs couperets, donc là on sort un peu tout ce qu'on a.
Oui, quand on est qualifié au bout de deux matchs, je pense qu'on a un relâchement naturel, ce qui peut-être problématique dans ce tournoi parce que les équipes sont naturellement motivées. On voit depuis le début les équipes dites petites qui
font posent
voilà, beaucoup de surprises. L'essentiel dans ce tournoi, c'est d'avoir la certitude qu'on a des lacunes et de travailler pour les corriger. L'Algérie, en préparation, a marché sur le Ghana. Aujourd'hui, l'Algérie a un doigt d'être éliminée. C'est pas le cas pour l'instant parce qu'il leur reste un troisième match qui peut leur permettre d'être deuxième ou troisième dans leur poule. Mais il faut avancer dans ce tournoi avec la peur au ventre. Ça rassure plus, on prend plus de précautions. L'équipe du Cameroun que je vois sur le premier match avait beaucoup de difficultés pour s'imposer. Sur le deuxième, ils ont pu dérouler au bout de la deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, ils étaient quand même verrouillés. Et sur ce troisième match, on voit qu'il y a des lacunes. Donc oui, peut-être qu'à grâce à ces différents problèmes-là, et cette concentration va revenir. La conscience et la concentration dans ce tournoi vont être plus déterminants que le talent pur. Parce que quand on voit ce que les équipes comme la Guinée équatoriale réussissent, c'est sur la motivation du match, sur les 90 minutes qu'il faut tout donner. Donc au bout, la surprise sera indéniable.
Jean-Bruno, évidemment, la question qu'on se pose et qu'on a envie de vous poser, parce que les supporters sont très enthousiastes, on le voyait tout à l'heure, et très emportés par leur flamme, mais c'est jusqu'où peuvent aller ces Lions ? Parce qu'évidemment, on pense à d'autres pays qui ont organisé des compétitions et on peut penser au Brésil de 2014, qui a été quand même un des exemples les plus frappants, ou même la France qui perd en finale l'Euro chez elle. Là, il y a une grande pression, une trop grande pression. Finalement, il y a toujours une pression sur les Lions, même quand ils jouent loin.
Alors, il y a une grosse pression, évidemment, parce que l'organisation de la CAN ne nous a pas toujours réussi. Il y a 5 ans, on n'avait pas remporté cette CAN ici chez nous. Et du coup, ce syndrome-là est dans les esprits, les gens ont peur. Et passer l'euphorie quand même du 4 buts contre 1 face à l'Éthiopie, les gens se posent déjà quand même des questions sur cette équipe-là. C'est-à-dire que, bon, d'accord, il y a eu 4 buts contre 1, mais dans un match, au lendemain d'un autre contre le Burkina Faso, où on a gagné sans convaincre personne.
Et donc, les gens, c'était peut-être le premier match, l'inauguration, absolument. Le président de la République était là, il y avait quand même beaucoup de facteurs.
Maintenant, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que cette équipe est capable d'aller loin ? Il va falloir du boulot dans l'organisation de cette équipe, sur le plan défensif, ce n'est pas vraiment cela. Tout en étant enthousiaste, on a marqué 4 contre l'Éthiopie, 2 contre le Burkina Faso et maintenant ça fait 7 buts en 3 matchs, ce n'est pas mal, mais il ne faudrait pas se laisser emporter par tout cela et regarder parce que après tout c'était quand même l'Éthiopie. Donc est-ce que ces Lions-là sont capables de faire une bonne prestation face à des équipes beaucoup plus importantes ? Là est toute la question aujourd'hui. Malgré l'enthousiasme que l'on peut observer de la part des supporters, on se pose pas mal de questions.
Mais il y a un
questions.
Bon entourage peut-être, parce qu'on se souvient des soubresauts à la FECA Foot et tout. Là, de ce côté-là, bon, il y a eu un éclaircissement. Et puis, on a l'impression qu'il y a peut-être un travail avec un entraîneur qui est là depuis quelque temps et peut-être que c'est plus sérieux.
Oui, c'est plus sérieux.
Ça rappelle peut-être Hugo Boss. Oui. En 2017.
Et voilà, et justement, en 2017, où on avait une équipe qui n'était pas extraordinaire sur le papier, mais qui, sur le plan du collectif, a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Et l'équipe, la sélection de cette année ressemble énormément à celle de 2017, parce que, en même temps, dans la tanière des Lions Indomptables, contrairement à ce à quoi on est souvent habitué, beaucoup de crises et tout ça, c'est plutôt c'est la paix, tout est bien, l'équipe est très très bien, il y a une grosse sérénité autour de cette équipe-là, c'est plutôt rassurant. Maintenant, c'est sur la qualité du jeu qu'il va falloir améliorer les choses. Et surtout, Aboubakar Vincent, il tient bien son rang, il joue son rôle de leader. C'est rassurant. Maintenant, il faut techniquement que le jeu soit amélioré pour pouvoir affronter les grandes équipes avec plus de sérénité.
Christophe, effectivement, la sérénité, c'est ce qui fait aussi, ce qui permet à un groupe de travailler, de continuer et d'envisager les étapes-là qui seront coup près.
Oui, et puis il faut dire que le Cameroun est quand même entré dans ce tournoi sans avoir joué un match de préparation, donc c'était pas évident. On voit bien que de toute façon que tous les gros sont en train de préparer la suite. L'Algérie, si ça se trouve, ira au bout, hein, on verra. Donc c'est difficile d'évaluer les forces à l'aune de ce premier tour. Important aussi quand même, le Cameroun, aucun cas de Covid. Quand on voit à quel point la pandémie a perturbé la préparation et même le début de tournoi de beaucoup d'équipes, le Cameroun est passé à travers les gouttes.
Mmh. Donc c'est une marque de sérieux peut-être.
Oui, après, effectivement, ils ont passé 4 buts à l'équipe la plus faible du groupe, qui termine avec un point. En huitième de finale, un adversaire costaud peut venir vite. On verra aussi quel est le sort qui est réservé aux Camerounais dans une semaine, puisqu'ils ont maintenant une semaine pour préparer ce huitième de finale.
Sega Diallo, c'est peut-être difficile quand on est à domicile et qu'on voit la coupe sur le territoire, de la laisser filer et pas de la remporter. Vous qui êtes dans un camp adverse, et on va y venir tout à l'heure, on sent ça aussi qui anime peut-être les adversaires qui jouent à la maison.
Oui, le Cameroun a une pression naturelle. Il y a eu beaucoup d'investissements du pays sur ce tournoi. Il ne faut pas l'ignorer. Les stades sont là. Je reviens de Olembe. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans le monde. Hein. Je ne parle même pas de l'Afrique. Donc oui, quand on a autant investi, on attend d'avoir mieux. Mais, clairement, cette équipe, pour l'instant, n'est pas arrivée au niveau optimum de sa préparation. Je le répète encore, mais dans ce tournoi-là, je pense que avancer avec des incertitudes, c'est mieux que d'avoir des certitudes. Parce que, évidemment, on risque d'avoir l'Algérie troisième meilleure par accident peut-être de sa poule. Et si le Cameroun tombe sur l'Algérie, c'est pas un match facile, je ne leur souhaite pas cela. Et même pour l'intérêt du tournoi, il faut que le Cameroun avance un peu. Mais c'est une équipe qui, moi personnellement, ne me fait pas peur à partir du moment où je l'ai vu jouer ce soir. Quand on joue au ballon face à cette équipe, elle est en difficulté. Et voilà, avec un peu de vitesse, ça se gère. Mais le Cameroun a une marque de fabrique depuis peut-être 40-50 ans. Ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs pour gagner. C'est-à-dire que dans la tête, voilà, ils sont préparés à souffrir dans un match, à mettre le pied et la tête pour contrer un ballon. Mais au bout, avoir un petit but d'avance, c'est culturel. Donc, je pense que la pression populaire va dans ce sens-là pour dire c'est vrai que c'est difficile pour vous, mais on n'attend rien d'autre que le trophée.
Oui, c'est ce indomptable.
C'est ce qu'on entendait dire beaucoup dans la zone mixte après le match. C'est une équipe qui n'a pas de marge. Et malgré tout, on peut avoir un champion, c'est ce qu'on peut souhaiter aux Camerounais, hein, qui a fait un parcours sans jamais avoir une marge énorme sur aucun de ses adversaires.
Et c'est vrai que 2017 avait donné un peu cette sensation et cet exemple. Voilà jusqu'où iront les Lions. On a essayé de répondre à cette question. Dans le même groupe, les étalons du Burkina Faso, aujourd'hui, ont fait match nul contre cette Éthiopie. Hein, comme quoi, finalement, rien n'est jamais acquis. La plus petite du groupe, Burkina Faso, Éthiopie 1-1. Et ils sont qualifiés, donc eux aussi. On attendra, le Cap-Vert doit attendre attendre pour savoir s'il continuera dans la compétition. Merci beaucoup Christophe Jousset d'avoir été avec nous. On continue sans vous, mais on continue avec nos invités dans Radio Foot International.
Un corner pour l'Algérie. On passe à un corner pour la Guinée équatoriale. Trajectoire sortant, premier poteau. Oh, la présence au deuxième. Ah, le but incroyable. Le but équato-guinéen au deuxième poteau. Il est signé Esteban Orozco. Il joue en quatrième division espagnole. Et c'est terminé. Le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre à Douala. L'exploit majuscule de la Guinée équatoriale qui s'impose face à l'Algérie 1-0. L'Algérie au bord du précipice.
Des champions d'Afrique en titre, ou du moins sortant au tapis hier soir, la Maison Belmadi, comme on l'a entendu et comme on l'a dit aussi ici, cette sélection sacrée, championne d'Afrique au Caire et même vainqueur récente de la Coupe arabe, a chuté face à la Guinée équatoriale, un Nzalang qui a résisté au Fennec, donc inscrivant eh bien, ce but qui a mis surtout fin à une magnifique série d'invincibilité de 35 matchs. Jamel Belmadi, le sélectionneur, avait bien du mal à expliquer ce naufrage. Morceau choisi.
Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles à tout, notamment dans le football. On peut dominer outrageusement des matchs et puis ressortir avec zéro point, zéro but. Donc on pourrait palabrer, expliquer des heures, détails de cette rencontre. Mais tant que je ne suis pas mort, il y a de l'espoir. Maintenant, il y a une qualification à aller chercher. Jamais, 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 jamais s'avouer vaincu. Jamais abandonner. Donc voilà le discours. Et j'ai dit pour le reste, juste occupez-vous du jeu, du travail. On va repréparer la Côte d'Ivoire, on va retravailler. Ça va être difficile, mais occupez-vous que de ça. Le reste, je l'endosse. Le reste, c'est pour moi. Faites ce que vous voulez après.
Cette sélection d'Algérie, on se souvient du sélectionneur qui, avant la compétition, nous parlait de cette compétition de la CAN, mais qu'il pensait aussi déjà à la Coupe du Monde et au match de barrage pour essayer d'aller au Qatar. Jean-Bruno Tagnelin, on le sent sur la défensive, évidemment, Belmadi, pas mort, comme il dit, donc encore essayant de se battre. Est-ce que ça vous a surpris, ces prestations de l'Algérie, où on l'a vue trop belle, elle s'est vue trop belle?
Oui, c'est vrai quand même que c'est une grosse surprise quand même, parce que voilà, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, qui tombe devant l'équipe nationale de Guinée équatoriale, c'est une grosse surprise. Personne n'aurait pu parier.
Quel trophée pour cette équipe. D'ailleurs, elle fêtait ça sur le terrain.
Comme si elle avait la CAN était terminée, voilà. Je pense que même si la compétition s'arrêtait aujourd'hui, la Guinée équatoriale se dirait, voilà, on a quand même réalisé quelque chose de grand, une série de 35 matchs invaincus qui vient
tomber face à la Guinée équatoriale.
Ils sont tombés de très haut, les Algériens. Je pense que c'est une grosse surprise. Et je suis un peu d'accord avec le sélectionneur qui dit, bon, voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas toujours s'expliquer de manière rationnelle. Voilà, donc...
C'est sans doute pour ça qu'on aime tous le foot.
Voilà, et c'est ça, justement, cette incertitude dans le football qui rend le jeu exaltant chaque fois qu'on doit affronter un adversaire. Personne ne peut savoir le résultat avant le match et tout. Voilà, maintenant... Est-ce que l'Algérie va sortir dès le premier tour? Ça, c'est la question. Et le dernier match contre la Côte d'Ivoire, ça va être quelque chose. C'est une finale avant l'heure. Ouais.
Rodrigue, est-ce que vous avez quand même vu des choses positives dans cette équipe d'Algérie? On a Riyad Mahrez, évidemment, qui est un peu le capitaine. Mais on a l'impression qu'il y a peut-être moins d'union, que ça fonctionne moins bien aussi. Beaucoup plus de gestes techniques qui sont loupés. Elle ne nous avait pas habitués jusqu'à présent à un tel jeu, je vais dire l'Algérie, ces incertitudes.
Ce n'est pas le fait d'avoir fait 34 matchs sans défaite que la formation algérienne arrive en terre camerounaise avec des épaules un peu gonflées pour dire que nous sommes des meilleurs, nous sommes des supérieurs aujourd'hui. Quand on regarde la production sur le terrain, on se pose quand même un certain nombre de questions sur les individualités. Il n'y a pas eu de collectif. Chacun voulait faire ce qu'il voulait pour pouvoir plaire, pour pouvoir faire quelque chose afin de trouver la solution. Mais on a trouvé une équipe équato-guinéenne pleine de détermination, pleine de fou, pleine de volonté. C'est ce qui s'est passé en 2015, vous vous en souvenez, lorsque la Guinée équatoriale faisait son parcours dans son organisation en Guinée équatoriale, il y avait de l'envie, il y avait cette détermination, il y avait ce collectif. Aujourd'hui, bon, pour nous qui avons suivi cette équipe en Guinée équatoriale, battre l'Algérie, c'est une surprise, mais le jeu produit par la Guinée équatoriale, avec les différents éléments qui composent cette équipe, n'est pas une surprise aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Donc, l'Algérie n'était victime que sa façon peut-être de pouvoir engager le match, de vouloir engager le match, et aujourd'hui, on constate que le résultat, la Guinée équatoriale le remporte.
Sega Diallo, tout à l'heure, je disais, est-ce que c'est la chute de la Maison Belmadi, parce qu'on connaît aussi, alors on parlait de pression tout à l'heure sur des équipes, alors là, celle de l'Algérie, il y en a eu aussi beaucoup, même de la part de la presse, souvent. Et puis cet entraîneur qui, depuis 3 ans, hein, surfait vraiment sur cette vague. Est-ce que c'est juste un incident de parcours? On sent qu'il n'a pas envie de lâcher la chose. Mais, ou alors, est-ce que vraiment c'est un ensemble qui s'est écroulé, selon vous, hier?
Je pense que les deux peuvent se tenir. Ça dépend de comment les garçons vont gérer ce choc-là. Belmadi est quelqu'un de très entier. Il est vrai. C'est pas quelqu'un qui fait de la comédie. Il a été surpris parce qu'il sort d'un tournoi réussi avec la Coupe du Monde arabe.
Et sans en plus les grandes stars.
Voilà. Donc. Tomber. Je pense que la préparation a fait plus de mal que de bien à cette équipe d'Algérie. Ils sont allés dans le Golfe, ils ont eu des cas de Covid, ils ne se sont pas véritablement préparés parce que les matchs amicaux ont été annulés. Mais de deux côtés, ça peut tenir parce qu'il a des ressources. Lui, personnellement, mentalement, il est très fort. Si le groupe le suit et qu'il passe, même avec un petit but face à la Côte d'Ivoire, derrière, ça peut se mettre en place. C'est l'une des équipes les plus rodées sur le continent. Mais j'ai aussi peur de l'autre côté que cette défaite ne laisse des traces et que de petites choses qui étaient enfouies, des frustrations de joueurs qui ne jouent pas régulièrement ou qui méritent d'être là. C'est l'inquiétude. S'il se relève et qu'il progresse, il gagne le match contre la Côte d'Ivoire, ça peut être un nouveau départ pour aller très loin. Mais si ça se passe mal, ça sera quand même une grosse désillusion. Après, moi, en tant que dirigeant, je peux me poser la question de savoir quelle peut être la réaction des dirigeants algériens. Parce que Belmadi, on ne peut pas le condamner sur un accident. Et donc, à quelques mois d'une Coupe du Monde, non. C'est assez compliqué.
Il y aura les matchs de barrage, effectivement. Voilà. Et là, on saura.
Si vous permettez, Annie, j'ai le sentiment, en écoutant Belmadi, que lui-même est déjà préparé au pire, quoi. Parce qu'on l'a écouté, on a le sentiment qu'il est prêt à accepter, y compris même son limogeage. Hein. Il sait très bien que si jamais il est éliminé dès le premier tour, cela laissera des traces. Et donc, ça va être un peu difficile. Et globalement, on se rend compte depuis le début de cette compétition que les sélections qui offrent le meilleur jeu ne sont pas forcément celles qui ont de grosses stars, mais ce sont celles qui travaillent sur un collectif avec des joueurs quoique moyens, mais qui jouent bien, qui essayent de s'organiser. Et les équipes qui sont venues avec des grandes stars ont un peu du mal. Voilà.
Ouais, et parce que aussi parfois les grandes stars, hein, où elles ont été retenues dans les clubs assez longtemps, où elles sont un peu fatiguées, un peu usées. Écoutons juste ce qui est de la Guinée équatoriale avant qu'on aille vers une sélection qui est arrivée un petit peu doucement et dont on commence à parler avec un beau collectif. Parlons donc de cette Guinée équatoriale et hier, à leur retour à l'hôtel, ça a été une fête absolument incroyable. Cette Guinée équatoriale, c'est la première fois qu'elle joue une CAN, une phase finale en dehors de son territoire, puisque
c'est la première fois qu'elle est qualifiée.
Voilà, exactement. Aussi. Les autres fois, elle était qualifiée en tant que pays hôte.
En tant que pays hôte.
Et donc exactement. Là, elle se retrouve là. Elle avait un petit peu peur au début. Un de nos envoyés spéciaux, Fabien Essiane, hein, qui connaît bien la Guinée équatoriale, le disait. Là, le but est signé du défenseur, hein, c'est ça, Esteban Obono. Oh, ouais. Parlez-nous un tout petit peu de cette équipe. C'est-à-dire, est-ce que là-bas, au pays, on y croit? On croit à un exploit, je dirais, de sortir de la poule, d'aller un peu plus loin. Ils étaient allés en quart de finale chez eux.
Oui, exactement. Mais dire qu'on y croit, oui, parce que lorsqu'on est qualifié à une phase finale...
Ou du moins, on attend quoi en Guinée équatoriale, la bataille à Malabo?
On attend que l'équipe aille le plus loin possible, fasse de très bons résultats. C'est par exemple, faire un match nul pour eux, pour la Guinée équatoriale, c'est presque avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Alors battre l'Algérie.
Battre l'Algérie. Donc, c'est pas petit. Aujourd'hui, si la Guinée équatoriale poursuit son bonhomme chemin, je pense que ce sera une fête nationale du côté de la Guinée équatoriale. C'est déjà bien. Se faire battre par la Côte d'Ivoire 0-1 et battre l'Algérie, vous comprenez par là qu'il faut craindre cette équipe de la Guinée équatoriale qui a des forces, surtout le collectif. Il n'y a pas des individualités, il n'y a pas des joueurs qui sortent du lot, mais il y a la foi. Quand vous essayez de voir l'équipe jouer, il y a le collectif, il n'y a pas des individualités, il n'y a pas des joueurs qui peuvent peut-être avoir la possibilité de prendre des responsabilités au cours des matchs.
Voilà pour ce qui est donc de la Guinée équatoriale. Et on va suivre son dernier match pour voir ce qui se passera et surtout le match des autres, parce que là, ça risque d'être très intéressant. On va passer à la journée de demain. Et je regarde Sega Diallo, parce que demain, dernière journée du groupe B, et c'est à Yaoundé. On voulait vous faire danser, Sega Diallo, c'est presque réussi.
C'est réussi, la danse.
Il dansait sur la chaise, pratiquement. Alors, après son début de compétition à Bafoussam, le Sili National est donc sorti de son cocon, les Guinéens. Ils sont d'ailleurs dans notre hôtel, on les croise souvent. Ils disputeront demain au stade Amadou Ahidjo leur qualification face aux Warriors du Zimbabwe. Dans le groupe du Sénégal et du Malawi, on n'imaginait pas que la Guinée arriverait au bout de la deuxième journée première de son groupe. Et au pays, chaque match est devenu une véritable fête, notamment à Conakry.
Le football, c'est le meilleur moyen de rapprocher les gens et d'unir les gens. Tous les Guinéens sont surtout vraiment très 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 amoureux du football. Que notre équipe est en train de compétir, elle est là-bas. Il faut que nous soyons solidaires avec cette équipe, même si c'est à partir d'ici, parce qu'on veut leur envoyer des ondes positives.
On entendait le Premier ministre de votre pays, Mohamed Béavogui, parler de ces ondes positives qu'on vous envoie. Vous les entendez ?
Oui, on sent les Guinéens libérés. On sort d'un gros trauma avec des éliminatoires de Coupe du Monde catastrophiques. Sur 6 matchs, on a eu 4 matchs nuls et 2 défaites face au Maroc. Donc c'est la première fois qu'on soit aussi catastrophique sur une compétition. Donc on arrivait, il n'y avait pas beaucoup de conviction, il ne faut pas le nier. Nous, on est arrivé en tant que comité de normalisation le 1er
oui,
décembre.
En plus.
Donc on a trouvé ce chantier sans sélectionneur, on a fait confiance à l'intérimeur. On a essayé de l'accompagner. Aujourd'hui, sur les 2 premiers matchs, il y a beaucoup de satisfaction, mais avec beaucoup d'humilité, parce qu'on ne peut pas avoir la prétention de penser qu'on pouvait mener la course devant, même si c'est qu'au goal average... face à une équipe du Sénégal qui est quand même favorite de ce tournoi avec l'Algérie et le Cameroun. Maintenant, on va continuer à travailler avec beaucoup de sérieux parce que ce tournoi, encore une fois, il faut le jouer avec la peur au ventre. Quand on a beaucoup de certitudes, on se brûle. Et je suis très heureux que Kaba ait réussi, malgré les incertitudes autour de la sélection, à construire quelque chose sur lequel ça ne tient pas. Ce n'est pas un roc, cette équipe. C'est un ensemble de gamins qui, sur un schéma, essaient de tirer leur épingle du jeu. Et on prie avec eux. On a envie, ils ont envie de montrer qu'ils ont du potentiel. Il y a des joueurs qui ont énormément de talent. Mais on joue sur le ressort de l'envie et de prouver qu'on est fier d'être guinéen et de redéfendre les couleurs.
On parle du collectif, quand on parle de la Guinée, on a l'impression que c'est l'expression consacrée, un groupe qui vit bien. Eh bien écoutez, tout à l'heure, c'était il n'y a pas très longtemps, en sortie de repas de cette équipe guinéenne qui lançait un défi à une des parties intégrées dans le groupe, c'est un confrère de Canal+.
vous chanter un rap du Brésil. Je pense que vous n'allez pas comprendre les paroles, mais vous pourrez
taper. Pas grave, n'inquiète pas.
Parfait, le rap du Brésil. Ok.
Vous y avez échappé On vous a pas appelé à chanter, ces gars?
Bah, ça m'étonne un peu que l'on appelle le président, parce que j'ai cette casquette depuis assez récemment. Et ensuite, parce que je...
Il y a une présidente.
Ouais, il y a une présidente qui était là, qui... Voilà, donc nous, en général, on joue la police actuellement. On essaie de mettre cette équipe dans un cadre... un peu pour protéger le groupe, pour qu'il soit dans une certaine ambiance, pour qu'il travaille sereinement. Après, ça peut paraître un peu dur, mais le professionnalisme demande à ce que l'équipe soit dans les meilleures conditions. Et pour un athlète de haut niveau dans un tournoi, quand on est constamment perturbé par des présences, c'est problématique. Et donc, le Conor veille sur ça avec l'ensemble de l'équipe présente. On a un service de sécurité et les joueurs... adhèrent à l'idée, puisque on nous appelle pour chanter avec eux, donc on n'est pas considéré comme des gens qui les infortunent, mais qui les accompagnent à être plus performants.
Alors justement, dans cette équipe, pour apporter un peu d'équilibre et aussi pour lancer, pour les mettre plus dans un bain professionnel, vos joueurs, vous avez fait appel à un coach mental. Alors, on l'a rencontré, Anthony Met, hein, il dirige une école d'ailleurs de psychologie mentale du côté de Bordeaux. Et je lui ai demandé effectivement de nous expliquer qu'est-ce que c'est un coach mental.
C'est deux choses pour une équipe de foot. La première, c'est, je dirais, de travailler mentalement joueur par joueur. Donc, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils sont compétents d'un point de vue psychologique, mental. Et évidemment, après, d'augmenter leurs compétences le plus haut possible. Et l'autre point, c'est de travailler aussi d'un point de vue collectif. Donc pareil, je fais le même constat d'un point de vue de cohésion de groupe. Je vois comment le groupe fonctionne, s'il est bien structuré, s'il y a des leaders qui sont clairement affirmés comme tels, s'il y a une sorte d'entente entre les joueurs aussi d'un point de vue affectif et aussi très technique sur le terrain. Et s'il n'y a pas ou si c'est insuffisant, comment le faire travailler pour aller vers du mieux.
Pour ce qui est du travail individuel, vous parlez avec chaque joueur comme un entretien, vous tenez compte de l'éloignement, du fait qu'ils découvrent aussi parfois certains, même s'ils sont binationaux, mais découvrent l'Afrique. Ça, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte?
Ouais, alors j'utilise trois techniques sur le plan individuel. La première, c'est l'observation. Je regarde tout ce qu'ils font, comment ils mangent, comment ils dorment ou pas. Je regarde tout à l'entraînement. Après, je les vois à l'entretien individuel. Je prends le temps parce que très vite, on se rend compte qu'ils ne sont pas habitués à parler d'eux et à être écoutés. Donc, des fois, je les mets à l'entretien à 15h, on s'assoit, je pose une question et ils parlent pendant une demi-heure, tout seul. Parce qu'ils ont besoin de parler, de s'exprimer et c'est tellement pas courant que du coup, ils y vont naturellement. Et le troisième point, c'est les tests. Donc, je leur fais passer un test à chacun. Et par ce test, j'évalue vraiment de façon quantitative leur niveau en termes de concentration, de stress, de confiance en eux, etc., etc. Donc, j'ai trois éléments de grille de lecture, l'entretien, l'observation et des éléments chiffrés par les tests.
Et une fois que vous les avez vus individuellement, il y a aussi après l'observation dans un groupe.
Exactement. Donc, je les vois après sur le terrain d'entraînement, en match, bien évidemment. J'ai la chance d'être présent aussi dans les vestiaires. Du coup, je vois leur comportement dans les vestiaires. Je vois les choses qu'ils mettent en place, les routines, leur concentration, la musique qu'ils écoutent, s'ils parlent pas, s'ils sont morts de peur. Voilà, je vois tout ça, en fait.
Et alors, une fois que vous avez fait toutes ces observations, à quoi ça va servir pour améliorer la performance de l'équipe?
Je dois à la fois faire un rapport à Kaba Diawara, l'entraîneur de l'équipe Lucili, sans non plus trop lui dire ce que les joueurs m'ont dit, pour que je garde un lien avec eux de confiance et qu'on puisse vraiment...
Voilà, c'est ça, hein.
Exactement. Ouais. Donc, je jongle un peu entre les deux. Donc, je lui dis en gros quel joueur je vais voir en suivi, lequel me semble vraiment intéressant, lequel est un peu hostile à tout ça. Et sur l'aspect plutôt cohésion de groupe, là, je suis un peu plus clair parce que en tant que manager, c'est lui qui doit gérer. Après, moi, je donne juste des conseils. C'est à lui de mettre en place les outils ou pas. C'est son choix.
Ça se termine sur un 0-0.
Eh bien, on repart, bons amis, du côté sénégalais, guinéen. Voilà comment on était arrivé. Voilà, 0-0, c'est dommage.
Naby Keïta, homme
ouais,
du match.
Comme lors du premier match, c'est lui qui est distingué.
Une petite question sur leur star, leur leader, leur capitaine, deux fois homme du match, sur Naby Keïta. Lui, il est peut-être habitué à avoir un suivi de coach mental. Lui, il sait ce que c'est.
Ouais, il a déjà, on en a parlé un peu ensemble. Il a déjà vu des psys, pour le coup, à Liverpool, notamment un français. Et puis, il est au-dessus. Alors, mentalement, on voit qu'il a une gestion de lui-même, des émotions, du corps, du quotidien, qui est vraiment, vraiment un, voire deux crans au-dessus des autres joueurs. Je trouve que ce qui vraiment le différencie beaucoup, c'est l'humilité. C'est un joueur qui est très humble, qui recherche tout le temps le détail pour aller plus loin et se perfectionner. Et c'est ce que malheureusement n'ont pas les 26 joueurs autres à côté, qui jouent beaucoup par rapport à leur talent et leur fierté et nationale et individuelle, ce qui est plutôt, on va dire, un atout, mais qui devient aussi un frein. La fierté, ça bloque un peu votre processus de progression. Le football pro, c'est tout le temps de la progression, de l'entraînement et de la recherche d'amélioration. Et ça, je crois que c'est Naby qui, dans l'équipe, est le seul qui vraiment a cette mindset-là.
En tout cas, Naby Keïta, il n'a pas besoin de vous, c'est ça?
Je suis vraiment le préparateur mental. Je vais vraiment chercher le détail et la progression très fine. J'ai gagné du 1-2% par rapport à des habiletés et des compétences psychologiques. Les autres, je vais plutôt faire un travail de fond, vraiment de structure de leur profil et vraiment d'équilibre global.
C'est la seule sélection de cette CAN qui a choisi un coach mental, Sega?
Je ne sais pas, mais ce que je sais en arrivant et après le traumatisme des éliminatoires, avec Kaba, on en a discuté, le Connor l'a proposé de mettre une structure d'appui pour renforcer le staff technique et donc tout naturellement faire appel à un coach mental a été mis en avant. C'est vrai que sur la durée, on peut se poser des questions parce que c'est un processus qui doit être un peu plus long. Mais là, on avait besoin d'un diagnostic et de démarrer quelque chose. Et je pense que même si, en termes de résultats, on ne peut pas attendre quelque chose de concret là, maintenant, mais vous avez dû le remarquer, en termes de bien-être, de sérénité, ça, que le groupe dégage, c'est extraordinaire. Ce n'est pas uniquement du fait du coach mental, mais c'est un ensemble de choses qu'on a mis en place. Et dans cet ensemble de choses, on a apporté le coach mental. C'est comme la vidéo aujourd'hui en équipe de Guinée. Tous les joueurs ont des tablettes qu'on a ramenées avec les schémas de jeu et de l'équipe et des adversaires. Donc, il suffit de cliquer sur la tablette, de voir votre adversaire direct, comment il joue, quelles sont ses faiblesses et quelles sont ses forces. Ça facilite un peu plus le travail pour le joueur. Parce que la tablette, elle est connectée, on peut facilement, on a Internet, revoir les points forts de son adversaire les 2-3 jours avant. Ça te permet d'intégrer la chose un peu plus facilement. Ça fait partie aussi des innovations qu'on apporte.
Une dernière question, Sega, sur la Guinée. Votre objectif, c'est premier du groupe.
Là, c'est l'objectif immédiat parce qu'on est déjà bien positionné. On a un adversaire
demain
en face
qui est déjà éliminé.
Mais c'est un piège. En même temps, le Zimbabwe ne voudra pas rentrer sans marquer des points et rentrer la tête haute au pays. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est de continuer la progression en toute humilité.
Vous voulez retourner à Bafoussam, en fait?
On va retourner à Bafoussam, ça je peux vous le garantir. Mais au-delà de ça, nous voulons rentrer le 7 février avec un vol spécial. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va ramener, mais c'est l'objectif qu'on a en tête. Et ce n'est pas une prétention. On sent quelque chose, on vit quelque chose. Et j'espère que ce tournoi, puisque j'ai dit, on n'a pas trop de certitudes, nous. On fonctionne, le moteur tourne grâce à ça. Et j'espère que ça va nous permettre d'être là le 6 au soir et d'empêcher nos amis Lyon de faire la fête.
Chaque équipe souhaiterait rentrer dans 7
heures. Rodrigue, Rodrigue et Jean-Bruno, je vais vous demander en quelques secondes, parce que le temps file et je voudrais encore parler des Panthères avant la fin. Comment vous la voyez, cette équipe de Guinée? Quelle impression elle vous donne rapidement, Rodrigue?
J'apprécie beaucoup le changement qui s'opère au sein de cette équipe. On sent une touche, on sent une particularité, on sent des gens qui ont de la vision, qui veulent offrir quelque chose au peuple guinéen. Donc, vous comprenez, en écoutant des explications aujourd'hui et en donnant la responsabilité à Kaba Diawa d'être le responsable de cette équipe, il y a une vision, il y a un objectif. Je pense que c'est une formation avec des jeunes qui sont autour qui peut aller loin.
Jean-Bruno.
Oui, en tout cas, quand on voit tout le sérieux qu'il y a autour de cette équipe, c'est assez encourageant. Je rappelle quand même que le Cameroun avait déjà expérimenté la nomination d'un psychologue au sein de la sélection nationale. C'était en 2009, je crois. On a nommé un psychologue, sauf que c'est une initiative qui n'avait pas été très bien comprise par les Camerounais qui ont énormément critiqué, qui estimaient que c'était une manière absolument inutile d'encombrer la tanière des Lions Indomptables avec trop d'encadreurs et tout. Et avant cela, on avait déjà nommé également Yannick Noah, qui devait jouer un peu le rôle de, qui devait faire de la motivation aux joueurs. C'est également une initiative qui, pour d'autres raisons, n'avait pas véritablement prospéré. Donc, quand on voit tout le sérieux qu'il y a dans l'encadrement de cette équipe de Guinée, ce n'est pas étonnant de voir la qualité du jeu qu'ils produisent sur le terrain. C'est assez cohérent. C'est un collectif assez intéressant.
Et puis, ils ont Naby Keïta, qui, pour l'instant, voilà, un grand joueur, très connu du côté Liverpool et qui est au rendez-vous.
Absolument.
Et qui a été deux fois homme du match et qui donc eh bien, va peut-être permettre au Sili National d'aller plus loin. Et on vous le souhaite aussi. Nous, on est neutre ici. Un vol spécial. On essaiera d'être dedans.
Merci.
On continue et on termine avec les Panthères dans cette compétition. Avec le Gabon qui rechaussera donc les crampons demain soir, ça sera face au Maroc. Mais les Panthères, quelle que soit leur performance, termineront cette compétition sans leur star Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, testés positifs depuis leur arrivée en territoire camerounais, repartent vers leur club. Ils n'ont pas joué une seule minute. Et le sélectionneur, donc Patrice Neveu, l'a annoncé ce matin. Rodrigue, une question qu'on s'est posé, nous, finalement. Bon, alors, on connaît tous à peu près pourquoi ils repartent. Et on dit aussi qu'ils sont très affectés par ça, venir pour une telle compétition, être en plus des grands joueurs et ne pas participer. Est-ce que, selon vous, on a vu cette équipe bien se débrouiller, je dirais, depuis le début de la CAN? Est-ce que, finalement, c'est quelque chose de très négatif? Est-ce que ça le sera, d'ailleurs, peut-être dans les têtes?
Très négatif, oui, parce que d'abord la préparation n'a pas été celle-là. Nous avons connu énormément de difficultés lors de la préparation de l'équipe nationale. Et puis, il faut quand même avouer que nous avons une catégorie de joueurs qui manque beaucoup de discipline au sein de cette équipe des Panthères du Gabon. Ça, c'est un laisser-aller. Chacun y va après chaque match, veut s'amuser. Vous comprenez aujourd'hui qu'après le match amical du côté de Dubaï, deux ou trois joueurs, Lemina et puis Pierre-Emerick, on le voit sur une vidéo dans une boîte de nuit. Et retour au Cameroun, trois, quatre joueurs sont testés positifs. Les difficultés de Patrice Neveu commencent là. On se pose véritablement la question, qu'est-ce qui arrive? Quand on essaie de regarder le Cap-Vert qui est là, il n'y a pas de joueurs testés positifs, c'est difficile. Il y a plusieurs équipes, le Cameroun, le Cap-Vert, la Zambie, etc., etc. La véritable question, c'est quoi? Est-ce que le foyer du Covid s'est installé dans l'hôtel des Panthères du Gabon? C'est du jour au jour qu'on constate à chaque fois que les joueurs des Panthères du Gabon font des tests. Il y a toujours deux ou trois qui sont testés positifs. Hier, on nous a annoncé encore que Sambissa est testé positif, Denis Bouanga a testé positif, Gilles Christ est testé positif. Plusieurs joueurs également ont testé positif. Pierre-Emerick, le leader, l'un des leaders, bien sûr, avec Mario Lemina encore avec ce souci de santé depuis le départ, depuis le début de la Coupe d'Afrique. Donc vous comprenez, c'est compliqué.
C'est compliqué pour les Panthères. Et malgré tout, eh bien, elles sont peut-être en position de pouvoir passer le premier tour. Et c'est la question qu'on se reposera dans Radio Foot International parce que le temps presse et que nous sommes au bout de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé tardivement ce soir à Radio Foot International. Merci
avec
beaucoup,
plaisir.
Ségadia. Allô.
Merci Annie Gasnier.
Et bonne chance à toutes vos sélections, messieurs. Je ne prends
pas
parti.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir en direct depuis Yaoundé. Et on se retrouve demain soir, même heure, même fréquence et même lieu à Yaoundé.
C'était Radio Foot International avec Canal+, diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Retrouvez l'intégralité de la compétition sur les chaînes Canal+ Sport. RFI.